À la première heure, nous les repérons à l'extrémité du lagon. L'air de rien, ils visent les canards avec une sarbacane en bambou, des flopées de colvert à la poitrine lila. Martin, le plus adroit, exultant à chaque coup gagnant. Jack, le plus bavard, tout en mâchonnant les petites boules de papier qui serviront de projectiles et jurant qu'autrefois, les canards lui plaisaient tant qu'il les mangeait par deux, crus de préférence, malgré les recommandations des médecins. Nous sommes partagés entre l'envie d'approcher et la crainte de rompre le charme. La raison l'emporte et nous restons à bonne distance. Mais nous comprenons qu'il y a une sorte de rideau de verre entre eux et nous, et si nous les voyons et les entendons parfaitement, eux ne perçoivent pas notre présence. Bernard Chambaz est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Un autre Éden » et comme chaque soir, nous commençons en musique avec Jacques Brel.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Le premier livre, Bernard Chambaz, le premier livre que vous ayez lu.
Le premier livre que j'ai lu, c'était comme enfant, c'est certainement les livres de Babar, donc qui m'ont beaucoup marqué et surtout ce qui me plaît dans Babar, c'est que je les ai lus enfant, que je les ai relus père et que je les ai relus encore grand-père. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de feuilleté temporelle qui accompagne Babar, qui finalement, d'une certaine manière, me ravit. Alors, c'est pas Proust, mais c'est très beau aussi. Et en plus, ce sont des livres où il y a à la fois des textes et des images, et où les textes, dans cette écriture avec les pleins et les déliés, comme on apprenait à l'école, restent quelque chose de touchant, peut-être surtout à notre époque où on dit que l'écriture tend à disparaître.
Que pensez-vous de Céleste, vous qui aimez tant Babar?
Céleste, je l'adorais, je l'ai vue disparaître plusieurs fois dans ma vie. Je m'en suis pas tout à fait remis, mais bon. En fait, elle existe toujours par la grâce de l'écriture.
Où étiez-vous hier?
Hier, j'étais à Oufa, qui est la capitale de la Bachkirie, dans l'Oural, à la fin d'un voyage, de la deuxième moitié d'un voyage en Oural, La première moitié, c'était cet hiver, au mois de mars, où 3 mètres de neige par moins 20 degrés. Et cette deuxième moitié, c'était au mois d'août, ça devait être l'été. Et puis, en fait, c'était encore l'hiver, parce qu'il a fait froid. Il faisait chaud à peu près partout, sauf là-bas. Donc, il faisait, hier, on était par moins de 10 degrés, des ciels gris, des vents désagréables.
Vous étiez avec votre amoureuse ?
J'étais, comme toujours, avec mon amoureuse. On ne se quitte guère.
Vous l'avez rencontrée comment et où, cette amoureuse,
La neige,
qui existe dans tous vos livres ?
À la neige, justement, ça fait des temps immémoriaux. Elle aime pas que je le dise, mais ça fait oui, plus de 50 ans.
Et vous pouvez pas vous passer d'elle ?
Non, la vie est ainsi faite que je ne me passe pas d'elle. Et je ne m'en lasse pas, surtout.
Le premier voyage ?
Avec elle ? C'était pas bien du tout. C'était à Bruges. C'était en fait un ersatz de Venise. Peut-être qu'on aurait voulu aller à Venise. On n'avait pas assez d'argent pour aller jusqu'à Venise. Donc on est allé dans une ville à canaux. Donc certainement quelques beaux souvenirs dans un repli de mon crâne. Mais j'ai trouvé, je m'en excuse auprès des brugeois, mais un côté mortifère à cette ville. Peut-être qu'on avait mal choisi aussi la saison. Mais on a fait beaucoup mieux depuis.
Pourquoi avez-vous écrit, quand vous étiez un jeune enfant, tous les jours des lettres à votre grand-père, Bernard Chambaz ?
J'étais l'aîné des petits-enfants, des petits-fils de mes grands-parents. Et mon grand-père, à un âge qu'aujourd'hui je trouve affreusement jeune, affreusement jeune, comprenez-moi, puisqu'il est mort très vite, il avait 62 ans. Il a eu, en fait, c'était un cancer du cerveau, qui à l'époque, c'était en 1963, donc l'a emporté en 3 mois. Et ma mère et ma grand-mère m'ont soufflé, en fait, je l'ai pas eu tout seul, cette idée, de lui écrire des lettres. Et je lui écris tous les jours une lettre, quasiment jusqu'à sa mort, le 15 janvier 1963. C'est des lettres toutes simples, mais surtout j'en ai retenu, en tout cas après coup, pas sur le moment, mais quand je me suis mis à écrire 15 ans plus tard, j'ai eu conscience, à tort ou à raison, que ce premier exercice, en fait, montrait qu'on écrivait d'une certaine manière contre la mort, pour endiguer la mort, et qu'on était perdant à tous les coups. Mais qu'on n'avait que ça à faire, et qu'on n'avait pas mieux à faire.
Qu'est-ce qu'un mot ?
Enfin, un mot, c'est ce qui nous fait vivre aussi, c'est ce qui nous accompagne. Votre question me fait penser qu'il y a des mots, enfin, qui sont des noms communs, qui nous sont essentiels, que dans les mots, il y a des verbes, que ces verbes qui sont le sens de l'action, dont Baudelaire disait qu'ils structuraient la phrase, sont également essentiels. Et il y a, à mes yeux en tout cas, des noms propres, qui sont vraiment essentiels, qui nous sont essentiels, qui devraient être essentiels au lecteur, qui le sont peut-être de moins en moins, mais qui sont les marques d'un territoire, et qui est le territoire de la magie. Moi, les noms propres m'ont toujours fait rêver, les noms propres continuent de me faire rêver. Et donc un mot, c'est à la fois le mot le plus simple, comme cette table ou ce micro, et c'est des mots moins évident comme, mettons, la ville de Magnitogorsk, dans l'Oural, dans laquelle j'étais il y a quelques jours à peine.
Pour pouvoir vivre, il faut que vous puissiez mettre votre vie en mots, à la fois par votre pensée et à la fois par l'écriture.
C'est pas forcément ma vie, enfin, c'est-à-dire que, ou des fragments de ma vie, ou à travers ma vie, je m'en rends compte au fur et à mesure, j'aime mettre les vies en mots. J'ai publié au Seuil également, il y a 2 ans, un petit livre que, pour ma part, mais je dois être un des seuls, j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle 17, dans lequel j'ai raconté les vies de 17 personnes qui étaient nées en 17 depuis le 16e siècle à nos jours. Il y avait aussi bien le torero Manolette et sa Dulcinée que Sainte Thérèse d'Avila. Oui, les mots en ce sens, sans les mots, il n'y a rien. Moi, de la même manière, j'ai besoin d'écrire, comme j'ai besoin de courir, enfin, pour respirer. C'est-à-dire, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui fait vivre aussi beaucoup d'entre nous.
Vous avez commencé, Bernard Chambaz, par la poésie. Et ça, il y a très longtemps.
Oui. Oui, mais mes deux, trois premiers livres ont été des livres de poèmes. Oui, j'ai commencé par là, par une espèce d'attrait, enfin, c'est assez commun, assez courant, peut-être en tout cas pour ma génération. Après, ce qui me frappe, c'est que j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai, d'ailleurs, dans l'année prochaine, j'aurai mon 10e recueil de poèmes qui sortira. C'est quelque chose dont je suis très heureux. C'est une façon de voir le monde, d'exprimer un rapport au monde qui m'est également essentiel. Il y a cette phrase de Pasternak que j'aime beaucoup, qui nous ramène à l'oral, que j'aime beaucoup, qui dit que la poésie est la voix de la prose. On pourrait dire aussi bien d'ailleurs que la prose est la voix de la poésie, mais les deux pour moi sont indissolublement liés. Je pense que la chance que nous avons aussi, c'est ce rapport particulier à la langue dans sa forme poétique.
Votre dernier livre, qui s'intitule « Un autre Éden », porte comme exergue une phrase de Joseph Delteille qui va provoquer une grande émotion à l'intérieur de nous, lectrices, lecteurs, et qui va nous accompagner tout au long de ce livre. Je la cite « Aux morts pour qu'ils vivent, aux vivants pour qu'ils aiment ». Elle est signée Joseph Delteille et je vous propose d'écouter Joseph Delteille, qui est un auteur qui compte, je crois, énormément pour vous et ce depuis longtemps, Bernard Chambaz, à propos de sa conception de la vie. C'est une archive INA de 1969.
J'avais simplement une vision de la vie. Il me semblait que la vie est une espèce de grand fleuve où il faut se jeter dedans d'abord. Et puis, une fois qu'on y est, on nage, on se débrouille, on fait de son mieux. Ce que j'étais, d'où je venais, je n'étais pas encore grand-chose. Je venais en somme de terminer mon service militaire il n'y avait pas très longtemps. Je suis resté 5 ans mobilisé, d'ailleurs dans des conditions assez amusantes. Ça va vous éblouir sans doute, j'étais tirailleur sénégalais, caporal tirailleur sénégalais. C'est-à-dire que nous étions l'encadrement blanc des régiments sénégalais qui étaient logés, campés à Saint-Raphaël et pour toute la guerre. Et comme j'étais dans le service auxiliaire, on nous avait mis là-dedans comme encadrement des Noirs. Et ça m'amusait beaucoup d'ailleurs, et ça m'a permis de rester presque tout le temps à Saint-Raphaël. Je ne suis allé au front, je crois qu'une fois ou deux, pour amener des Sénégalais sur les champs de bataille. Mais je n'y restais pas, je n'ai pas été un guerrier fabuleux.
Pourquoi cet exergue? Et rappelez-nous qui est Joseph Delteille, parce que, hélas, il est un peu oublié aujourd'hui.
Oui, malheureusement, il fait partie de ces écrivains du XXe siècle qu'on a oubliés. Il y a un moment, d'ailleurs, j'emploie ce mot de gonzesse d'amour, d'Audi Berthier, qui est, voilà, on peut plus dire gonzesse. Et Audi Berthier fait partie de ces beaux écrivains. Alors, Giono a survécu, mais des hommes comme des écrivains comme Audi Berthier et Delteille, dans des registres différents, sont moins connus. Delteille, il a écrit un ensemble de livres très très beaux. Ça a été collecté chez Grasset. Il y a notamment un Saint François, une vie de Saint François qui est absolument majestueuse. Il y a aussi une Jeanne d'Arc qui est incroyable. C'est des petits romans ou des petites vies, justement. Enfin, c'est pas comme Marcel Schwab, c'est encore autre chose, Schwab. Mais Delteille, j'aime au plus haut point. C'est dans une langue, je sais pas s'il faut dire parfaite, parce qu'on ne cherche pas la perfection, mais dans une langue, en tout cas, qui est marquée par la grâce. Voilà, moi, ça me touche au plus haut point. Alors, ce qui me plaît aussi beaucoup chez Delteille, c'est les distances qu'il a prises avec le milieu littéraire. C'est-à-dire qu'il a été très jeune, il a connu, mais dans les années 20, c'était autre chose, du 20e siècle, il a connu le succès. Et puis, en fait, il a tourné le dos au succès. Il est parti vivre dans le Languedoc avec sa avec sa femme américaine. Il a eu une vie que finalement j'aurais aimé avoir aussi, c'est-à-dire loin des petits milieux parisiens. Il me fait penser aussi à un autre écrivain qu'on n'a pas oublié, de poète de cette époque que j'aime au plus haut point, qui est Desnos. Ils sont pas dans le courant de la littérature, ils sont je sais pas où d'ailleurs, mais c'est pour moi et pour certainement beaucoup d'autres que moi, ils sont les grands écrivains du XXe siècle.
Et personne n'y peut rien si j'entends l'écho d'une autre phrase qui me talonne depuis une éternité. Bienheureux ceux qui marchent dans le fouettement furieux des ailes de l'ange. Celui qui a réussi à ramasser en si peu de mots la quintessence de nos vies, celui-là peut vivre en paix. Ça, c'est la fin du premier chapitre de votre nouveau livre, Un autre Éden, Bernard Chambaz. Oui.
J'aimerais vivre en paix. Lui, il n'a pas vécu en paix non plus. Enfin, je le lui souhaite de manière postériori, de manière posthume. C'est Giono. Et en plus, c'est dans encore un de ses livres méconnus de Giono qui s'appelle Pour saluer Melville. Pour moi,
Question de Melville dans
votre livre. Lui, il avait question de Melville. Bon, moi, plus modestement, c'était Jack London, qui est un très grand écrivain aussi. Ce livre m'a toujours énormément plu, et je rends, par cette simple phrase, à Giono un tout petit peu de tout ce qu'il m'a donné.
Écrire, c'est lire. Lire, c'est écrire. C'est un va-et-vient continu. Parce que chez vous, Bernard Chambaz, et ce depuis pas mal de livres, mais encore plus particulièrement dans celui-ci, Un autre Éden, on a l'impression, étrangement, et c'est très très agréable, d'être dans votre tête, mais aussi dans la pulsation de votre pouls, dans votre économie corporelle, et presque même dans votre économie psychique aussi. Comme s'il y avait une fluidité de mots, comme si vous pensiez tout ce qui vous arrive, physiquement, intellectuellement, et comme si, après, vous savez déposer en mots vos propres émotions et vos propres sensations.
Je suis très touché par ce que vous me dites. Vous dites mieux que je ne le ferai ce que j'essaie de faire. Je retiens aussi le mot de fluidité, c'est-à-dire dans lequel j'entends à la fois le flux de la vie, le flux des sensations, qui en termes philosophiques notamment, chez les Anglais, est ce qui détermine notre identité. Et puis la fluidité de la langue, c'est un travail incessant, c'est un combat incessant. Ce livre, ce roman-là, c'est au moins 3 années de travail. Ce sont des journées de 8 à 10 heures de travail. Ça a été au moins une demi-douzaine de versions. Enfin, je les compte plus de façon à écarter ce qui pourrait paraître vain, futile, ou arrêter la lecture, enfin de manière à viser la fluidité. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire.
Alors, dans cette rentrée littéraire, qui est magnifique, par ailleurs, il y a quelques pollutions dont nous ne parlerons pas ici ce soir, qui font allusion à l'autobiographie, au jeu, au déploiement du jeu, etc. Vous étiez très loin, et c'est tant mieux pour vous. Parlons de littérature grâce à vous, mais parlons de votre jeu. Vous parlez au jeu, vous dites « jeu », Bernard Chambaz, et ce, depuis pas mal d'ouvrages. Il y a des ouvrages historiques, je me souviens que le premier roman était un roman historique, il y a des ouvrages qui mettent en ordre l'histoire en rappelant des courtes biographies, vous le rappeliez tout à l'heure, c'était l'avant-dernier, mais il y a tout un cycle d'autobiographies. Et dans celui-ci, je pense que c'est le 3e volume d'un cycle autobiographie, Un autre Éden, eh bien c'est de vous que vous parlez, vous et votre amoureuse. Et pour autant, évidemment, c'est votre histoire, et elle est tragique, et on va y revenir à travers ce livre, Un autre Éden. Mais en même temps, ce jeu-là, il est porteur d'universalité. Comment vous pourriez parler de l'autobiographie? Est-ce que vous pratiquez le genre autobiographique? Ou est-ce que vous nous faites accéder à l'universel grâce à votre propre psychisme?
Enfin, je vise, c'est ambitieux, mais je vise à l'universel. Enfin, mon petit jeu n'a pas d'intérêt. Après, on écrit forcément avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on traverse. encore une fois, je disais, avec les sensations, y compris physiques, qu'on a éprouvées. Je veux dire, si, je sais pas, la chair de poule, le bonheur d'avoir le soleil sur la peau, ou inversement, des gouttes de pluie, enfin, l'été, s'il fait chaud, c'est agréable, ça peut être agréable. Voilà, ces choses-là, on les a connues et on a l'occasion, la possibilité de les rapporter par écrit. Moi, je suis attaché effectivement à essayer de, par exemple, dans ce roman, donc où on a qui correspond aussi à une traversée du Canada. Mais c'est un roman, c'est-à-dire que ce qui me frappe là, je m'abrite pas, mais ça m'a beaucoup frappé puisque vous parliez aussi de rentrée littéraire, de ces, moi, il y a un mot que je n'aime pas du tout, qui est le mot d'exofiction, qui à mes yeux.
Ça veut dire quoi?
C'est comme autofiction. Ben, si j'ai bien compris, l'exofiction consiste à faire de la fiction à partir d'un personnage plus historique existant. Donc c'est ni exo ni autofiction, c'est d'une certaine manière fiction. C'est aussi pour ça que je l'appelle roman, parce qu'il y a une part. J'ai pas d'imagination, mais j'ai quand même une capacité, je l'espère en tout cas, à inventer. Et c'est cette capacité d'inventer et de combiner qui, à mes yeux, fait un roman. Il y avait cette phrase de Nerval, qui pour moi est le grand frère de Death Note. Et Nerval disait que, justement, un roman, est-ce qu'un roman est capable de rendre compte de toutes les combinaisons bizarres de la vie? Et lui répondait que non. Et c'est pour ça que je pense que les villes, la mienne, les nôtres, etc., sont prétexte à roman, sont matière à roman, mais sans que ce soit ce qu'on a pris l'habitude d'appeler autofiction ou exofiction.
Le nom même de Martin Eden retentit comme un coup de cymbale et une sommation. Depuis 24 ans, ils sont inséparables. Il était temps de les mettre de plein pied, les découvrir ensemble, courant à perdre haleine dans les ravines, devisant gaiement, torpillant une barquette de cerises pour survivre. Survivre, hein, c'est ce que vous écrivez, Bernard Chambaz. Nous aurons donc attendu l'été de leurs 40 ans. Ils ont ainsi le même âge et, malgré un visage légèrement empâté, la même grâce qu'autrefois. À 40 ans, ils soulèveraient sans peine des cœurs. C'est qui ces deux-là?
Ces deux-là, ce sont Martin, notre fils, et Jack London, l'auteur, enfin à la fois bien connu et méconnu. Il se trouve simplement, enfin la chose est simple, et c'est pour ça que le roman est à la fois simple, il est pour moi tout à fait essentiel. Enfin, il est même une forme de couronnement de toute cette histoire. Dans la mesure où Martin est né le 15 janvier 1976, Jack London est né le 12 janvier 1976. Cette parenté, cette coïncidence ne m'avait pas particulièrement frappé avant la disparition de Martin. Il est évident qu'après, et quand je m'en suis rendu compte, ça a été un coup de cymbale. Et j'ai toujours pensé que ce serait bien qu'ils se baladent ensemble. Et c'est ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, mon amoureuse et moi, et ce que moi j'ai fait ensuite dans ce livre, dont elle est d'ailleurs, je tiens à le dire, la première lectrice, très exigeante, ça je tiens à le dire aussi. De cette manière, on les a rapprochés, mais c'est quelque chose qui m'est apparu, je dirais, parfaitement naturel. Et c'est pour ça que c'est encore une fois un livre qui ressemble à rien.
Où étiez-vous quand votre amoureuse et vous avez appris la disparition tragique de Martin?
Ça, je crois que je l'ai écrit, enfin, j'en suis même sûr, dans le seul livre que j'aurais jamais voulu écrire, qui est le récit de cette disparition. Et c'est voilà, en fait, là, j'ai... Je plains immensément ma femme, elle a été pendant 3 heures la seule à le savoir, et elle m'a appris quand je suis rentré, et c'est... je me suis toujours mis à sa place. Et c'était, voilà, je trouve que ça a été, c'est terrible pour nous deux, et c'est terrible pour nous deux depuis, et même si on a évidemment la chance immense d'avoir deux autres garçons qui sont merveilleux, qui ont merveilleusement grandi et tout, mais elle a, ça c'est quelque chose qu'elle aura toujours eu ces 3 heures terribles, encore plus terribles.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Bernard Chambaz, l'air de Luce van le Stelle de la Tosca de Puccini. Vous savez, Bernard Chambaz, ça fait longtemps qu'on vous lit, ça fait longtemps qu'on vous suit, ça fait longtemps, moi comme beaucoup d'autres, nous partons en voyage dans tous les sens du terme grâce à votre écriture, à la qualité des registres de votre écriture, grâce à la précision de vos mots, grâce à la cadence et au rythme aussi où vous nous emmenez, où vous nous embarquez, car ce sont très souvent des voyages auxquels vous nous conviez. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, peut-être encore que vous poursuivez, encore plus peut-être que dans les livres précédents, c'est que l'écriture, et là on revient à l'exergue de Joseph Delteil, l'écriture, évidemment, elle ressuscite pas ceux qui ont disparu, elle ressuscite pas votre fils Martin, mais n'empêche que Martin, il est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, maître? Trouver les mots pour que vous le voyez, Martin, vous l'imaginez. En tout cas, nous, on y croit.
Ben, c'est merveilleux que vous y croyez. Ben, encore une fois, c'est un compagnonnage. Enfin, d'abord, on y pense tout, enfin, je veux dire, en permanence. C'est quelque chose d'ineffaçable. On en est inconsolable. Pontalis, pour lequel j'avais tant d'admiration et d'affection.
Donc J.B. Pontalis, était ce psychanalyste, qui était aussi directeur d'une magnifique collection chez Gallimard.
Oui, qui s'appelait L'un et l'autre, et pour lesquels j'ai fait ce livre, notamment ce livre sur Puccini, et c'est le précédent, qui s'appelait Plongée, où il avait retenu, il m'avait demandé avec l'élégance qui était la sienne, l'autorisation de mettre cette phrase sur le bandeau, c'est-à-dire qu'on restait inconsolable de la mort d'un enfant. Je peux raconter, si vous permettez, juste une toute petite anecdote. Enfin, un jour, pour des raisons que je n'expliquerai pas là, je suis retourné au cimetière d'Ivry. J'ai été reçu par le conservateur du cimetière, un homme absolument adorable. Il m'a tenu compagnie pendant une heure. Voilà, il s'agissait simplement de déplacer la tombe. Et au bout de cette heure, il me dit, il savait de quoi il retournait, quoi. Il me dit vraiment, je vous comprends. J'ai perdu ma belle-mère la semaine dernière. Je suis resté je me suis dit, ou il a une belle-mère exceptionnelle, ou ce qui est possible, ou il a rien compris. Mais il était parfaitement adorable, et je le respecte infiniment. Mais je trouve cette histoire m'a, après coup encore, éclairé sur la singularité de ce deuil. D'ailleurs, pour lequel, je le répète, il n'y a pas de mot en français. S'il y en a en anglais, il n'y en a pas en français.
Bah, ça arrive dans le monde entier, hélas, que des parents perdent leurs enfants.
Oui, et puis ça arrive en quantité. C'est quelque chose d'effroyable. Enfin, tout point de vue, soit les guerres, les accidents, les maladies, c'est l'âge, quel que soit l'âge, que ce soit un enfant dans sa première année, qu'il en ait 10, qu'il en ait 20, qu'il en ait 30, c'est toujours. Enfin, c'est simple comme tout. C'est pas l'ordre des choses. C'est pas dans l'ordre des choses.
Mais ce qui est extraordinaire chez vous, Bernard Chambaz, c'est que l'écriture vous mène à la possibilité d'une existence future de votre fils Martin. Je m'explique. Il y a des écrivains qui ont écrit des livres magistraux sur la perte de leur enfant. Je pense notamment aux différents livres exceptionnels et extraordinaires de Philippe Forest sur sa petite fille, et qui continuent à écrire là-dessus. La mort les a fixés dans une date, dans un âge. Vous, Bernard Chambaz, l'écriture vous permet de donner l'illimité de la vie qu'aurait dû avoir Martin. Là, il a 40 ans.
Ça m'est venu. Enfin, c'est une idée qui m'est venue naturellement. C'est-à-dire que le voyage, cette traversée du Canada, nous l'avons faite en 2016, donc c'était les 100 ans de Jack London, c'était les 40 ans de Martin, enfin c'était le centième anniversaire de la mort de Jack London, et c'était les 40 ans de Martin. Il y avait une espèce de logique. C'était pas tout à fait ça dans le livre précédent de la traversée des États-Unis qui s'appelle Dernière nouvelle du Martin Pêcheur, où on le voyait seul, plutôt à l'âge où nous l'avions laissé, et dans des espèces de visions oniriques, qui étaient toujours liées d'ailleurs au passage d'un méridien. Là, non, il prend, je ne sais pas si je vous remercie, je suis mille fois prêt à vous croire, enfin, s'il prend un peu d'épaisseur, si d'une certaine manière, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, il survit, bah, c'est déjà ça. Et je peux pas m'empêcher de penser, sans vouloir comparer non plus, que oui, enfin, survivre, c'est dans des registres, un registre totalement différent, mais tout se croise. C'est aussi comment vivre après une expérience tragique qui nous fracasse, et lui peut-être, comment est-ce qu'il peut avoir un semblant, même si ce n'est qu'un leurre, un semblant d'existence.
Je vous propose d'écouter la voix de Georges Perec, qui va lire quelques extraits de Je me souviens.
Je me souviens de l'époque où la mode était aux chemises noires. Je me souviens des postes à galène. Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets de cigarettes. Je me souviens que c'est grâce à Édith Piaf que les compagnons de la chanson, Eddie Constantine et Yves Montand, débutèrent. Je me souviens de l'époque où un immeuble de 10 étages, qui venait d'être achevé au bout de l'avenue de la Sœur Rosalie, était le plus haut de Paris et passait pour un gratte-ciel. Je me souviens que Voltaire est l'anagramme de Arouet le Jeune en écrivant V au lieu de U et I au lieu de J. Je me souviens que c'est en voulant monter une superproduction intitulée Marco Polo que le producteur Raoul Lévy fit faillite. Je me souviens que c'est Sacha Guitry qui trouva le slogan « LSK, c'est esqui ». Je me souviens que Christian Jacques divorça d'avec René Faure pour épouser Martine Carole. Je me souviens que le coureur automobile Sommer était surnommé le sanglier des Ardennes. Je me souviens de Garap.
Alors effectivement, quand on vous lit, Bernard Chambaz, on pense à la musicalité de la texture poétique et matérielle de Georges Perec. Et pour vous, je crois que depuis de nombreux livres, mais encore plus particulièrement dans celui-là, puisque vous allez mêler différentes périodes et différents registres d'écriture, eh bien, votre matière principale, c'est la mémoire, c'est la disparition, comme dans Perec d'ailleurs, c'est la perte, mais c'est aussi la restitution de la beauté du monde.
Oui, alors c'est la mémoire. Enfin, c'est-à-dire que on y est obligé. C'est-à-dire tout disparaît, le propre du passé. C'est-à-dire que c'est pas seulement comment dire ce qui peut être triste ou tragique dans la disparition. C'est la mémoire. C'est aussi les bons moments de la vie, les beaux moments de la vie. C'est pour ça que les rencontres, les balades entre Jack et Martin sont joyeuses. C'est-à-dire qu'il y a, là aussi, j'ai, sur ce plan et par rapport au deuil, il a fallu un temps, et c'était la marque des dernières nouvelles du Martin Pêcheur, pour comprendre que le deuil était au bout d'un temps, le deuil est compatible avec la joie. C'est-à-dire, en gros, la moitié de nous-mêmes est calcinée, mais l'autre moitié nouvelle est toujours apte à la joie. J'essaye aussi de faire des romans qui soient joyeux, qui soient légers, au-delà même du fluide. Au fond, c'est ça qui m'importe.
La gaieté, la beauté,
oui,
la jubilation de l'existence.
Oui, et la tentative, oui, alors, si on veut désespérer, et si on veut vaine, mais moi je suis capable... Que de ça, de préserver des moments du passé, ou de faire en sorte que le passé redevienne, en tout cas pour un moment, présent. Parce que quand on dit « je me souviens », c'est ça aussi, quand on dit « je me souviens d'un événement passé, mais je m'en souviens au présent, et l'écrivant, je m'en souviens pour qu'il soit là aussi au futur, et pour qu'il influe sur le futur. » Donc enfin, pas le travail de mémoire, parce que maintenant ça a pris un autre sens, notamment dans l'historiographie, mais le fait de faire travailler la mémoire, c'est pas être retourné ou replié vers le passé. Je le sens comme, en tout cas, la tentative d'être ouvert vers l'avenir.
Transmettre avec précision, avec rigueur, transmettre avec le sens de la vérité, c'est quelque chose qui vous importe. D'ailleurs, il y a quelques années, vous aviez publié un livre sur le 11 septembre pour expliquer aux jeunes enfants la portée de cet événement.
Oui, j'avais à la demande de l'éditeur Rue du Monde, nous avions fait Barou, l'illustrateur et moi, un livre qui s'appelait « Je m'appelle pas Ben Laden ». J'étais content du titre, mais en fait, le titre a un peu plombé le livre. C'est drôle, hein, c'était l'inverse. En plus, c'est un livre qui vaut surtout par les dessins de Barou qui sont magnifiques et très tendres. Mais c'était un livre tendre et le titre a fait peur. Et oui, dans ce livre, qui a été écrit en 2011, et là encore, ça c'est comme dans mon roman, parfois, comment dire, l'histoire réelle a rattrapé l'histoire que j'étais en train d'écrire. C'est-à-dire que on écrivait c'était au printemps, on écrivait ce livre « Je m'appelle pas Ben Laden ». dans lequel notamment j'ai été frappé par le souvenir de la pyramide qui est au Metropolitan, qu'on voit d'ailleurs de l'extérieur au musée du Metropolitan à New York, et qui se passe à New York. Et pendant que j'écrivais le livre, Ben Laden a été exécuté. Moi, j'avais essayé dans, c'est un livre évidemment court pour les jeunes d'une dizaine d'années, donc en quelques phrases, de laisser entendre quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est-à-dire la joie des Américains et même des New-Yorkais, qui sont pourtant les plus, on va dire, qui ont les plus affûtés des Américains. Enfin, j'adore les États-Unis, mais la joie manifestée à l'annonce de l'exécution de Ben Laden. Parce que dans la mesure où, encore une fois, le problème n'est pas là de savoir si c'est la manière dont ça a été fait, dont Obama a donné l'ordre, etc., etc. Mais je vois pas ce que ça apportait aux familles des victimes des tours jumelles. C'est-à-dire que c'est, moi, je ne m'imagine pas, mais après, c'est vraiment une question personnelle. Un voisin peut penser exactement l'inverse. C'est, moi, si j'avais perdu un proche dans les tours jumelles, l'exécution de Ben Laden m'aurait pas soulagé. Voilà, bon, il est exécuté, ce point à la ligne.
Pourquoi avez-vous besoin de faire du vélo? Alors que votre amoureuse n'en fait pas, hein, je le précise.
Oui, non.
Elle roule en décapotable, hein. Pas très loin de vous, mais quand même, elle fait pas de vélo.
Non, chacun son registre. C'est l'endurance. En plus, c'est une activité physique, voire un sport, qui est bienveillant pour les vieux. Donc, je le recommande à tout le monde au passage.
Parce que vous vous trouvez vieux?
Bah oui, écoutez, à mon âge, oui, bah bien sûr, je suis âgé. Faut pas tourner autour des mots, malheureusement. Il suffit de regarder autour de soi.
Ben vous n'avez pas l'air, c'est déjà pas mal. Non,
vous êtes trop aimable. Mais donc c'est un sport idéal, notamment pour pas se faire mal aux articulations. On peut se faire mal, le cœur qui fait travailler le cœur. Et puis c'est une phrase toute bête, mais elle est réelle. C'est que tant qu'on pédale, on est vivant. Et donc voilà, j'aimerais bien pédaler longtemps.
Ben en tout cas, pendant que vous pédalez, vous pensez, pendant que vous pédalez, vous regardez, pendant que vous pédalez, vous admirez l'immensité du ciel, la beauté des paysages, vous rencontrez des gens que vous ne rencontreriez sans doute jamais. Et surtout, on a l'impression que cette espèce d'éloge de la lenteur que vous autorise le vélo vous permet de découvrir l'infiniment petit, comme si vous aviez une appétence vers ce qui est à admirer. Il y a toujours quelque chose à admirer, au fond.
Bah oui, c'est vrai, il suffit d'ouvrir les yeux. Vous me demandiez tout à l'heure ce que j'avais lu. Donc, je vous ai en premier, mon premier livre, c'était Babar. Dans les livres que j'ai lus peu de temps après, c'était Michel Strogoff. Et de Michel Strogoff, là je le dis à la radio, c'est parfait, mais il faut maintenant que je fasse attention parce que je l'ai écrit, je l'ai recité au moins dans deux ou trois livres, donc ça c'est moins bien. Mais c'est au moment où il va se faire aveugler avec le sabre qui a été passé au brasero, il regarde de tous tes yeux, regarde avant de ne plus pouvoir voir. Et ça c'est quelque chose, mais vraiment qui est entré en moi, peut-être à l'époque, qui est revenu quelques décennies plus tard et qui est inoubliable et qui résume un peu tout. On a cette chance immense d'être au monde. Dieu sait qu'on est dans un monde qui est difficile, où il y a de la misère, de la pauvreté. Ça aussi, je tenais à ce que ce soit dans ce livre. Mais c'est le monde, fondamentalement, il est beau.
Je rêve, je sais que je rêve, je ne sais pas comment m'en sortir et je ne sais pas si je suis si pressée que ça, malgré l'agitation qui me pompe le cœur. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur le point de nous noyer, emportés vers le fond par notre petit Martin pêcheur. Mais par un acte de volonté autonome, voici que nous flottons maintenant tous les trois au milieu des poissons volants. Le discernement commande cependant de regagner le rivage. J'aimerais tant qu'on puisse s'asseoir au bord de l'eau, sous les cocotiers ou sous un petit arbre avec des feuilles vert cru. Je m'en fous. Juste s'asseoir tous les trois et pas possiblement tous les cinq. S'asseoir à même le sol et regarder pousser les cocotiers. Ça, c'est vers la fin de votre dernier roman. Martin, un autre Éden. Martin est là, vos deux autres fils sont là, votre amoureuse est là, vous êtes là tous les cinq. Ça va généralement très bien, mais par moments, c'est moins bien, quoi. Faut sortir la tête de l'eau.
Oui, là, on est au Québec, d'où ce verbe s'assire à la place de s'asseoir. Et avec aussi ce qui m'avait touché, enfin, au Québec, c'est-à-dire cette vieille langue mal coiffée ou bien coiffée, enfin, ou coiffée diversement, et que je trouve très belle, qui me touche beaucoup. Et là, oui, c'était la possibilité de ouais, que ce serait trop beau, mais c'est pour ça que c'est un rêve, et c'est sûrement, j'y avais pas pensé forcément, mais ça doit être pour ça que c'est à cet endroit-là.
Rares sont les auteurs qui font des après-propos. Déjà, la mode de l'avant-propos est en train de se perdre, mais alors l'après-propos, c'est de plus en plus rare. Comme vous êtes un écrivain rare, vous faites un après-propos. Et on l'aura compris tout au long de cette émission, vous êtes quelqu'un d'extrêmement modeste, de beaucoup trop modeste. Et cet après-propos est consacré à votre gratitude. Et la gratitude, vous l'avez envers des auteurs qui vous ont nourri depuis extrêmement longtemps, que vous lisez, que vous relisez, des vivants, des pas vivants, de ceux qui appartiennent au patrimoine et de ceux qui nous étonnent encore aujourd'hui par leur premier roman. Et évidemment, un des personnages principaux, on l'a pas dit depuis le début de cette émission, d'où le titre « Un autre Éden », eh bien, c'est Jack London, allusion à Martin Éden, et au prénom de votre fils. Et à la fin, dans cet après-propos, vous dites « Je ne sais pas ce que pensent Jacques et Martin ». Jacques, c'est Jack London, dont vous nous restituez en grande partie la biographie. C'est un joyeux de riz, hein, Jack London et Martin. Au fond, ils se seraient plus tous les deux. Ils auraient pu se rencontrer.
Ah oui, tout à fait. Ils sont rencontrés dans cette projection.
Donc la littérature, c'est vrai. Ils se sont rencontrés.
Bah, c'est cette part de vérité, en tout cas.
Et ils se sont plus, à votre avis?
Ah oui, sûr. Oui, forcément.
C'est pas forcément un bon exemple, Jack London.
Si, c'est un type.
Avec toutes les femmes qu'il a eues, avec toutes les femmes qu'il a laissées tomber.
Non, il n'en a pas eu tellement, il n'en a pas les. Non, il a. Enfin, beaucoup plus que moi, mais qu'il n'en a eu qu'une, mais il en a. Non. Ça, c'est des. Justement, c'est. Je tenais aussi. Il est assez méconnu, c'est-à-dire on le présente comme un coureur de jupons, ce n'était pas le cas, on le présente comme un raciste. Enfin, si on remet les choses en perspective, là on est toujours victime de moi qui suis historien, en tout cas professeur d'histoire, c'est effarant là le principe de téléologie. Enfin, c'est-à-dire que on voit tout par les fins, c'est-à-dire qu'on juge du racisme. Au début du XXIe siècle, on juge du racisme à la fin du XIXe comme on le juge au début du XXIe. Non, faut faire autrement. Donc il n'était pas raciste, il n'est pas machiste. Ça, c'est aussi quand même l'idée, une des idées de départ de ce livre à laquelle je suis arrivé assez rapidement. C'est-à-dire que lui qu'on a présenté comme un machiste, j'ai trouvé... D'abord, j'ai été...
Bah,
totalement
vous en faites une femme, alors, épaté, évidemment.
Oui, j'ai été épaté et ébloui par les lettres à ses filles, par les rapports avec ses filles. C'était un vrai père poule. Et en le lisant, j'ai quand même beaucoup lu, j'ai trouvé au moins une demi-douzaine de fois la formule « si j'étais une femme ». Donc, qui eût imaginé ça de Jack London? Donc, vous voyez, c'est un bon garçon.
Mais vous êtes peut-être une femme aussi.
Oui, ben, bien entendu que j'en suis une. Mais c'est... Bon, tout ça est dépassé. Enfin, maintenant, c'est les. Il y a 30 ans, quand un homme disait part féminine en moi, bon, ça rigolait. Aujourd'hui, ça rigole même plus. Donc, c'est une évidence. Et c'est très bien comme ça.
Ben, en tout cas, bravo et merci infiniment pour ce très beau livre qui sort en ce moment même, qui s'intitule Un autre Éden et qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Doux réveil, au goût amer était-ce un cauchemar? Était-ce un cauchemar? Oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer, c'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai, ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Et c'est avec Angèle et son titre « Les matins » que nous allons nous quitter ce soir. Non sans avoir remercié Amandine Grévaux, qui était à la technique ce soir, Élodie Royer, Adrien Nazelli, Louise Douillet et Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux, ainsi qu'évidemment Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very, Very Good Trip.